L'odorat est une bombe mémorielle. En avril dernier, à l'ombre des murs de la prison de Liverpool, une chercheuse britannique mène une drôle d'expérience. Elle tend des fioles aux détenus à l'intérieur des odeurs familières. Celles de baskets neuves, de tomates trop mûres, d'un adoucissant à la promesse marine. Et là, derrière les barreaux, ça explose. Un pique-nique sur l'herbe mouillée, l'euphorie d'enfiler ses des chaussures encore rigides, la buanderie de la maison d'avant la détention. Ces ateliers réveillent la mémoire enfouie des détenus. Il répare l'identité que l'enfermement cherche à dissoudre, une trace de soi dans une molécule. Parce que le parfum, c'est du souvenir liquide. Il file directement dans le lobe limbique, la partie du cerveau qui gouverne l'émotion et la mémoire. Un sillage de vétiver et voilà qu'un ancien amant vous saute au nez et au cœur, une effluve de caramel et le souvenir d'une peste du collège vous prend à la gorge. Ce soir, dans le Mac de l'été, on prépare nos narines et on embarque dans un voyage olfactif pour l'apéro. Notre guide, Francis Kurkdjian, grand compositeur de la parfumerie contemporaine. À 13 ans, il se rêvait danseur à l'opéra, raté. À 26 ans, il compose Le Mal de Jean-Paul Gaultier, une onde mondiale. Viendront ensuite Gaultier puissance 2, Four Heures de Narciso Rodriguez ou Fleur de Figuier chez Roger et Gallet. Aujourd'hui, il dirige la création parfum chez Dior, tout en développant sa propre maison, Maison Francis Kurkdjian. Le Palais de Tokyo lui consacrera du 29 octobre au 23 novembre une exposition intitulée Parfum, sculpture de l'invisible. Bonsoir Francis Kurkdjian.
Bonsoir.
À 18h30, comme tous les soirs, le panorama de la culture. Au programme, on frissonne avec un film d'horreur en plein été. On déambule sous la pluie bretonne et on retrouve les survivants de Lost avant qu'ils ne disparaissent à jamais. Alors passez-vous un coup d'eau de mer dans les naseaux pour nettoyer tout ça et respirer un bon coup. Le Mac de l'été, c'est jusqu'à 19h sur France Inter.
France Inter, le Mac de l'été. Constance Villanova.
Francis Kurkdjian, avant de commencer notre entretien, j'aimerais d'abord qu'on fasse un petit point lexical. J'ai une question à vous poser. Vous préférez le terme de compositeur au terme de nez, N-E-Z, pour désigner un créateur de parfum. Pourquoi ce choix lexical ?
Je pense qu'on ne dirait pas de vous que vous êtes une voix, même si vous avez une très belle voix. Parce que le texte que vous avez écrit aujourd'hui pour l'introduction, il a été composé et réfléchi, mûrement réfléchi. Ben, parfum, ça se compose. Il se réfléchit avant d'envoyer la formule au laboratoire. Il se réfléchit avant de poser la liste des ingrédients sur une feuille de papier ou sur un écran d'ordinateur. Et derrière le mot nez, j'y vois un mot très, pas négatif nécessairement, mais réducteur.
Réducteur. Voilà. Avant de fourrer notre nez dans votre biographie, on passe au moment test, au moment crème solaire entre les doigts. J'aimerais savoir quel estivant vous êtes, Francis Kurkdjian. C'est l'interview haute saison. Quelle odeur symbolise l'été pour vous ?
L'anti-moustique actuellement.
C'est vrai ?
Oui, je me suis fait dévorer les bras, j'étais en terrasse.
Donc une odeur de citronnelle.
Alors là, c'est pas citronnelle du tout. Il y a un peu de mélange de géranium. Je pense qu'il y a géranium, un fond vétiver. Et il y a une note qui tape un peu, qui n'est pas très jolie, mais ça a l'air efficace, en tout cas ça soulage.
Le parfum que vous portez cet été ?
Alors je ne porte pas de parfum pour le plaisir, je porte les parfums que je compose. Alors je les compose avec joie et bonheur, même si la création parfois c'est un peu plus complexe que du bonheur. Je dirais que le parfum que je vais porter cet été, ça sera le parfum de l'amitié, puisque je reçois mes amis.
Paris en été, ça sent quoi ?
Paris en été après l'orage. Alors, ça sent bon parce que ça sent le pétrichor qui est cette note très particulière d'après la pluie.
L'odeur estivale que vous détestez le plus ?
La noix de coco sur la plage.
Les crèmes à la noix de coco.
Les crèmes à la noix de coco.
On va se plonger dans vos flacons iconiques, Francis Kurkdjian, mais avant ça, j'ai envie de vous replonger, vous, dans l'été de vos 20 ans, le premier été de liberté. On est en 1989, le mur de Berlin s'apprête à tomber, Margiela fait défiler ses mannequins dans un squat parisien du 20e, mais il se passe aussi beaucoup d'autres choses, écoutez.
Quelques heures plus tôt, c'était en fin d'après-midi, nous l'avons vu, l'un des temps forts de ce bicentenaire, l'inauguration de l'Opéra Bastille, l'un des chantiers voulus par François Mitterrand.
Un fou ? Quel genre de fou ? Dites, allez, sans réfléchir.
Un fou un peu dément.
Oh non, voyons, trouvez mieux que ça. Libérez votre esprit, essayez de l'imaginer. Dites ce qui vous passe par la tête, allez, même si c'est une absurdité. Allez,
un fou avec les dents qui transpirent.
Bon sang, mais c'est de la poésie que vous nous faites.
À l'aube du troisième millénaire, la femme se réincarne en Guerlain. Samsara de Guerlain.
Alors, on a entendu le cercle des poètes disparus. Je vous ai vu vous déhancher sur la lambada de Kaoma Francis Curjean. Et on a entendu une publicité pour Samsara, un parfum de Guerlain, et puis l'inauguration de l'opéra Bastille. Est-ce que vous vous souvenez de l'été de vos 20 ans, Francis Curjean? Vous étiez où l'été de vos 20 ans? Qu'est-ce que vous faisiez?
Je devais être au bord de la mer sur un catamaran. Et je devais faire du catamaran avec mon père. Je pense que c'est le dernier été où j'étais à peu près tranquille, parce qu'après j'ai embrayé sur mes études de parfumerie, et à partir après les études de parfumerie, je pense que j'ai quasiment travaillé quasiment tous les étés après.
Vos étés, ils se passaient à la mer, donc c'est ça, en bateau,
oui,
généralement?
Oui, tout à fait, sur la côte atlantique, à Saint-Palais, à côté de Saint-Palais.
Avec vos parents?
Oui, tout à fait.
Avant de continuer notre charmante discussion sur votre vocation, Francis Curjean, on reste en 1989 avec la meilleure, Tina Turner, The Best. Turner, The Best sur France Inter.
France Inter, le mag de l'été.
Quand j'étais gosse avec mon frère, on était apprenti à la distillerie. Tous les jours, on allait aux Violettes.
Bon, ben ça va, c'était pas trop fatigant.
C'était pas trop fatigant, sauf qu'on se levait à 4h du matin. Parce qu'il faut les cueillir avant que le soleil se lève.
Mais quand il n'y a plus de violette?
Quand il n'y a plus de violette, il y a la chimie. Solo, par exemple, on ne dirait pas, mais...
Et c'est quoi, Solo?
C'est moi qui l'ai fait il y a 15 ans. Vous ne connaissez pas? Et collège, Et variance. Qu'est-ce qui vous fait rire?
Mais je sais pas, tout ça, ce métier, c'est...
Ce métier, c'est une industrie, vous savez.
Je vous ai vu réagir, Francis Curgeon, à cet extrait du Sauvage de Jean-Paul Rapneau, sorti en 75 avec Catherine Deneuve et Yves Montand, qui incarne un parfumeur. Dans le New Yorker, vous racontez que vous avez 15 ans quand vous voyez ce film et qui vous attrape, et vous décidez que votre vie se jouera dans les molécules. Pourquoi ce film? Qu'est-ce qu'il a provoqué en vous?
Il incarne le mystère, la beauté de Catherine Deneuve, la beauté incendie de Catherine Deneuve, l'exotisme avec cette île au large du Venezuela. J'ai eu de la chance, il y a quelques années, de pouvoir parler avec Jean-Paul Rapneau du film, justement, et de comprendre un peu pourquoi ce parfumeur, pourquoi cet environnement. Et puis, cette séquence, où je crois qu'ils doivent être dans le lit, je pense qu'ils sont allongés l'un à côté de l'autre, ils parlent de son métier. Et c'est étonnant, parce que ma mère avait plein de parfums à la maison. Et c'est vrai que un flacon, c'est un voyage à lui tout seul. Et tout d'un coup, d'entendre... Parce qu'il est très bien joué, son personnage de Yves Montand. Il le joue très bien, la manière dont il parle, la manière dont il parle même du parfum. C'est pas très souvent, c'est un peu galvaudé dans les films. Là, c'est parfait, en fait. C'est parfait. Il parle même de la chimie. On pouvait pas s'attendre à ça. Et je sais pas, je me suis dit, tiens, c'est ça que je veux faire, en fait.
Vous êtes né en mai 69 à Paris et vous grandissez en banlieue parisienne à Gournay-sur-Marne, dans une famille d'origine arménienne, où on coud, on taille, on parfume, mais sans y penser. Vous aviez un grand-père fourreur, l'autre qui était tailleur. Est-ce que cet héritage, il vous marque?
Bah, forcément, il aurait fallu que j'ai un jumeau qui ait une autre vie, qui ait grandi dans une autre famille pour voir si vraiment la différence, enfin, si les origines, je suis convaincu, oui, les origines font. Le travail de l'aiguille, comme disait ma grand-mère, quand on coud et surtout quand on vit de la couture, comme il le faisait, la transformation de la matière, ça m'a toujours beaucoup marqué, je crois, parce que finalement j'ai le même métier. Transformer une matière, alors moi c'est invisible, les ingrédients, oui on les matérialise dans un champ de fleurs, de la chimie, on voit à peu près une usine de chimie, on voit un champ de fleurs, mais finalement moi quand j'écris une formule, y a rien, c'est juste mon crayon qui glisse sur une feuille de papier. Mais ça marque, évidemment que ça marque.
Vous l'avez dit, votre mère, elle avait pas mal de flacons de parfum. Oui. Vous avez raconté sur France Culture que son sac à main était toute une histoire olfactive. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? L'odeur du sac à main de votre mère, Francis Curgeon.
C'est encore une époque où on s'habillait, en tout cas dans ma famille, on s'habillait le dimanche, notamment pour aller à l'église. Et donc on avait les habits du dimanche. On nous mettait des pantalons en flanelle qui piquaient avec le blazer. Et maman mettait un parfum particulier, qui était Madame Rochas, qui était à l'époque le parfum, je pense, le plus vendu dans le monde. C'était une grande référence, Madame Rochas. C'est un peu un dérivé dans la même famille qu'un numéro 5 de Chanel. C'est un grand parfum comme ça, de fourrure. Et elle avait aussi son manteau de fourrure. Et c'est vrai que c'est une maman qui sent bon. Je sais pas si aujourd'hui...
L'ensemble de la fourrure du sac à main et de
Rochas. L'odeur des rouges à lèvres, parce qu'à l'époque, c'était des produits qui étaient très marqués. Le rouge à lèvres aujourd'hui, composé de l'odeur parfois, les odeurs sont moins marquées. En plus, ce sont des odeurs gourmandes. À l'époque, c'était des odeurs qui étaient des odeurs de parfumerie. Tout ça contribuait à l'idée de s'endimancher, comme on disait. Et peut-être que c'est mon âme d'enfant qui fantasmait peut-être tout ça. Peut-être que si aujourd'hui je remettais le nez dans le sac à main de maman, il sentirait finalement pas grand-chose. Mais en fait, à l'époque, avec des yeux amoureux de sa maman, bah, ça se sentait très bon.
Vous décidez donc de vous lancer dans le métier de parfumeur. Quelle formation vous suivez? Et surtout, ça m'intéresse, ça ressemble à quoi une formation de parfumeur?
Alors, à plusieurs reprises, vous avez évoqué mon âge, indirectement, puisque j'avais 20 ans, 89. Donc j'en ai 56. Non, mais pour parler d'un compatriote, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. En 89, quand j'ai 20 ans, il y a à peu près deux voies pour apprendre la parfumerie. Il y a une voie si on est connecté, si on a le piston dans des maisons de composition de parfums. Ce sont des sociétés qui créent des parfums pour des tiers. Ou alors, il y a une école à Versailles qui s'appelle l'ISIPCA, qui était relativement nouvelle à l'époque, qui avait été créée à l'époque à l'initiative notamment de la famille Guerlain, pour développer l'industrie de la parfumerie naissante qui nécessitait des employés, voilà, qui nécessitaient des gens, aussi bien parfumeurs que non parfumeurs. Et donc, par des concours de circonstances, j'arrive à rentrer dans cette école de parfumerie qui est l'ISIPCA. J'y rentre après un bac plus 2 et j'y apprends la parfumerie pendant 2 ans. Alors, autrement dit, on n'apprend pas grand chose. On apprend une chose, on apprend à sentir.
Oui.
L'apprentissage de la de l'odeur, de l'olfaction, malheureusement, ne se fait pas à l'école, alors que ça pourrait être la chose, ça pourrait être le sens que l'on pourrait apprendre qui est gratuit. L'odorat, c'est tout. Ça va vous évoquer l'odeur de la basket neuve tout à l'heure dans votre introduction. Bah, c'est ça, c'est l'odeur de la basket neuve, c'est l'odeur d'on ouvre un frigo. On va dans le jardin, on ouvre la fenêtre d'une ville, on gratte un citron, on craque une allumette. Tout ça a une odeur et derrière ces odeurs, il y a des mots. Et en fait, apprendre à sentir, c'est deux choses. C'est apprendre à respirer correctement pour apprécier l'odeur. Et c'est surtout apprendre à mettre des mots sur ce que l'on sent, apprendre à mettre des émotions sur ce que l'on sent. C'est dépasser aussi l'odeur de l'allumette, c'est dépasser l'odeur du citron pour dire que ça, finalement, ça sent citron, que ça sent frais. C'est ouvrir son esprit à un imaginaire de création. Et on apprend à peu près à ça à l'école.
À 26 ans, c'est le succès. Vous composez un best-seller mondial avec son flacon iconique en buste marin, le parfum de tous les grands Ferrer, diront les femmes de ma génération. Le mal de Jean-Paul Gaultier. Définissez-nous ce parfum et c'était quoi la commande ?
Donc j'ai cette opportunité incroyable, de, à peine sortie de l'école, de travailler sur ce projet. En fait, ça a été travaillé comme un exercice. On me l'a confié comme apprendre à faire comme les parfumeurs, sans aucune chance, quelque part, de succès. Et c'est une œuvre de commande, donc. Et on m'a demandé de rassembler à la fois les souvenirs de Jean-Paul Gaultier dans un flacon avec un imaginaire autour qui allait de l'odeur de son grand-père, imaginez, l'odeur de que pouvait être l'odeur de grand-père, avec effectivement pour un créateur aussi français que Jean-Paul Gaultier, bah ça passait par la lavande, mais aussi des évocations beaucoup plus sensuelles et pour le jeune homme que j'étais à l'époque, peut-être que ça me parlait parce que j'avais un peu l'âge de la génération qui l'a porté, donc j'ai peut-être composé de manière indirecte le parfum de l'époque, en tout cas de mon époque, qui était une odeur très... D'ailleurs, je me souviens encore des mots récemment, parce qu'on célèbre les 30 ans cette année, donc je me suis replongé un peu dans les archives. Il y avait cette odeur qui, on disait, il fallait que ça soit sexuellement et sensuellement engagé. Et c'était, on parlait d'odeur de peau, qu'il fallait lécher la peau après le bain de soleil sur le sel qui se poserait sur la peau bronzée. Il y avait des évocations comme ça. Donc j'ai essayé de faire de mon mieux. Et puis ça...
C'est une réussite. Hein. Après Gaultier, il y a eu Rose Barbare chez Guerlain, Cologne Blanche pour la collection privée de Dior. Vous avez adapté votre écriture à une maison, à un style. Mais en 2009, vous créez votre propre maison. Et votre plus grand succès aujourd'hui, c'est Baccarat Rouge 540. C'est un parfum culte, incontournable, particulièrement sur les réseaux sociaux. Vous en avez apporté en studio. Donc, je vais le sentir, je ne l'ai jamais senti. Et je vais vous demander... Je vais vous demander de nous le décrire. Faut pas frotter. Non, j'ai frotté. Il faut pas frotter. Je ne frotte pas.
En plus, il fait très chaud dans le studio, donc il faut surtout pas frotter.
Vous avez dit que c'est difficile de mettre des mots sur une odeur. Vous savez le faire. Comment vous pouvez décrire en quelques secondes ce best-seller qu'est Baccarat ?
C'est le parfum des contraires. Il est à la fois très persistant et puissant dans le sillage, c'est-à-dire qu'il va remplir la pièce, et en même temps, il reste aérien. Et finalement, c'était essayer de mettre Baccarat dans un flacon. Le cristal, c'est quoi? Le cristal, c'est plus lourd que le verre, mais c'est le son du cristal est plus aigu, il y a un tintement plus cristallin, comme on dit. C'est plus lumineux et c'est plus lourd. Et en fait, comment faire un parfum qui soit à la fois plus lourd que le normal, mais plus transparent? C'est un peu cette alliance-là que j'ai essayé de composer dans une note un peu gourmande, et je parle souvent du parfum comme étant trois souffles. Il y a le souffle du feu. Pour faire du cristal, il faut du feu, du minéral, composé principalement du sable. Et pour faire du cristal rouge, il faut du sable et de l'or. Et il faut ce que j'appelle le souffle de l'artisan et du savoir-faire. Et finalement, ces trois souffles-là mélangés, c'est quoi? C'est une idée de l'ambre gris, l'idée d'une note qui sent un peu le jasmin, très éthéré et très, très enveloppé, et une note un peu gourmande qui fait un peu chaud, sucré.
Ouais.
Et c'est cet accord-là, rouge 540.
France Curgent, on va prolonger notre voyage olfactif, mais d'abord un petit panorama de la culture. Avant ça, on reste assis avec Spiltab.
Je pense ton cœur est chaud. dire que t'es que à moi et je me rends compte à part dans mon monde que je pense qu'à toi.
Venu de Los Angeles, c'était Spill Tab sur France Inter, extrait d'Engie, un premier album prometteur.
Le mag de l'été. Constance Villanova sur France Inter.
Tous les jours à 18h33, le mag de l'été passe en mode vigiculturel, c'est le panorama.
Panneau,
oui.
Obé.
Non, c'est panneau.
Aujourd'hui dans le panorama, on célèbre, on dépense 700 000 euros pour une vidéo, plutôt on célèbre Halloween en juillet, on traverse l'Angleterre sous la pluie sans quitter la Bretagne et on remonte le temps jusqu'à l'île de Lost.
Je suis super content, on arrive à bosser avec des marques sur à peu près toutes les vidéos qu'on sort, ce qui fait un budget conséquent pour pouvoir faire des vidéos, c'est aussi pour ça qu'on fait plus de formats encore. Là, dans les idées qu'on a, il y a une vidéo à la fin de l'année, franchement, je pense qu'elle va coûter 600-700 000. La vidéo sera la vidéo la plus chère qu'on ait jamais faite.
Squeezie, l'un des vidéastes les plus suivis de France, avec plus de 20 millions d'abonnés, vient d'annoncer la vidéo la plus chère du YouTube français, presque 700 000 euros de budget. Connu pour ses formats de devinettes grandeur nature, comme qui est l'imposteur. Il promet cette fois un format hors norme, mais à l'échelle mondiale, c'est peanuts. MrBeast, l'américain indétrônable, investit parfois plusieurs millions de dollars dans ses vidéos YouTube. Autant dire que face à ces shows XXL, les plateformes de streaming et la télévision classique ont du souci à se faire.
Sois la bienvenue dans ta nouvelle maison.
Pipe. Et...
Mon demi-frère, Andy.
Où est ta canne, chérie?
J'évite de l'utiliser.
T'as gagné une sœur et un frère. Oliver a perdu sa famille, tout comme vous.
Sous cette météo automnale, on hésite à ressortir la doudoune et à décorer une citrouille, ambiance Halloween. Ça tombe bien, le film d'horreur Substitution Bring Her Back sort aujourd'hui en salle. Réalisé par les Australiens Danny et Michael Philippou, il raconte le deuil d'un adolescent et de sa sœur malvoyante, envoyé dans une maison étrange auprès d'une femme fantasme et d'un enfant mutique. Cette misère familiale cache-t-elle une emprise démoniaque? Le film est salué aussi bien par Télérama que par les experts de Mad Movies. Alors on prend sa lanterne, on enfile son déguisement de fantôme et on y va.
The.
Okay.
The.
Okay, that's okay. The weather is nice.
The weather is nice. J'ai pas faim.
No, I'm not hungry.
What?
On ne quitte pas la pluie avec notre événement gratuit du jour. Cap vers la Bretagne, le festival de photos de la Gacilly, où l'Angleterre est mise à l'honneur. Plus de 1000 clichés so British sont exposés dans les rues, les jardins et même en pleine forêt. Au programme, les scènes de rue tendres et colorées de Josh Edgoos ou les portraits ironiques de Martin Parr. Un voyage visuel à ciel ouvert entre Kawa et Téfumant jusqu'au 1er octobre.
Vous croyez que nous nous sommes écrasés ici par pure coïncidence, sur cette île précisément ? Non, on nous a amenés ici. Dans un but précis, nous sommes là pour une raison. Chacun des survivants a été amené ici pour une raison.
Et qui nous a amenés ici, d'après vous ?
L'île.
C'est votre mission série de l'été. Les 6 saisons de la série Lost quitteront le catalogue de Netflix mi-août. Il vous reste donc 2 semaines pour embarquer ou réembarquer avec Jack, Kate, John Locke et Sawyer sur cette île étrange, peuplée de mystères, de souvenirs et de dangers insoupçonnés. Dommage collatéral, après ça, vous ne prendrez plus un vol long courrier sans penser à un bouton d'alarme.
c'est pas avec le nez qu'on compose, c'est avec le cerveau. Le nez n'est qu'un moyen d'apprentissage d'abord des matières premières, et puis ensuite de vérification du mélange, des essais qu'on fait. Et c'est tout, mais sinon c'est tout se passe dans le cerveau. C'est vrai pour tout le musicien, c'est pas avec son oreille qu'il compose, hein, il compose avec son cerveau.
On vient d'entendre Edmond Roudnitska, parfumeur du XXe siècle, pionnier de la parfumerie moderne, créateur de chefs-d'œuvre comme Eau Sauvage. Et justement, apparemment, Francis Curgeon, dans votre bureau chez Dior, il y aurait une affiche de Roudnitska. Est-ce que je me trompe ?
Vous êtes bien informé.
Très bien informé.
Je me suis depuis l'été de mes 20 ans.
Il disait « Je compose avec mon cerveau hein. ». Vous aussi, vous voulez d'ailleurs déconstruire un peu le mythe du parfumeur qui va créer en sentant des citronniers. Pourquoi c'est important pour vous de marteler, de rappeler que c'est aussi du travail, de la méthode ?
Très souvent, on pense qu'un métier artistique est un métier un peu désordonné. Et ce qui me plaît dans mon métier et la parfumerie, c'est justement que c'est un métier qui associe, qui met un rond dans un carré presque. Il y a l'idée d'une rigueur un peu scientifique, mais qu'on retrouve dans plein de domaines artistiques. Vous mentionnez le piano. J'ai des amis pianistes qui sont concertistes, qui s'entraînent tous les jours avec une rigueur implacable. Et très souvent, on associe à la science une forme de morosité. On associe à l'art quelque chose de beaucoup plus fantasque. Et j'ai cette chance d'avoir un métier qui est associé à la fois des chiffres et que ces chiffres arrivent à créer des émotions. Donc Bon, après, c'est pas compliqué, je fais des additions et des soustractions, parce qu'une formule, ça tombe sur 100 ou sur 1000. C'est quand même assez simple comme mathématique, mais ça fait le job.
C'est quoi l'environnement idéal pour penser un parfum ? Est-ce que vous travaillez dans le silence, avec de la musique ? C'est quoi l'odeur de votre bureau ?
L'environnement idéal, c'est pas trop de lumière, pour moi, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est pas trop de lumière. Plutôt, c'est du calme et du silence pour que mon nez et mon cerveau ne fassent plus qu'un et que les informations qui viennent, donc odorantes, aillent dans la mémoire olfactive et que mon cerveau soit pleinement concentré sur l'odorat, puisque nous sommes quand même, en devenant bipède, on est quand même, c'est quand même l'audiovisuel qui prime. Mmh. C'est l'œil et l'ouïe qui prime. Tout le reste disparaît un petit peu. Donc il faut absolument obliger le cerveau à se concentrer sur l'odorat. Et après, l'environnement, ça peut être aujourd'hui avec l'informatique. Je peux composer au bord d'une piscine, je peux composer dans mon lit, je peux composer effectivement dans mon bureau. La composition, elle se fait un peu partout. Le mythe du parfumeur, alors j'essaie, vous parliez de
clichés,
le Monet, le côté Jacques Vabre du métier, c'est pas du tout moi. La blouse blanche dans le laboratoire, c'est pas moi non plus. Il n'y a pas de réaction chimique dans un labo qui fume. Et aujourd'hui, je pourrais composer ici au calme. Il y a un peu trop de lumière, il fait un peu chaud. Donc, un peu compliqué pour sentir, mais en gros, je pourrais écrire une formule sur une feuille de papier.
On va rentrer dans un sujet qui fâche. On va parler du prix des parfums. Depuis 2016, les prix auraient augmenté de 30%. Alors que, soyons honnêtes, on n'est plus à l'époque où les parfumeurs allaient à Grasse cueillir des brassées de jasmin au petit matin. Les molécules de synthèse, on l'a dit, la chimie ont bouleversé le paysage, mais même dès le début de l'histoire de la parfumerie moderne. C'est quoi qu'on paie aujourd'hui dans un parfum ? Est-ce que c'est le jus ? Est-ce que c'est le flacon ? Est-ce que c'est le marketing ?
Alors, ce n'est pas un jus. C'est une composition.
Composition.
Oui. Alors, les matières premières augmentent.
Oui.
Je vous donnais. Non, mais c'est.
Mais c'est même un enjeu géopolitique. Hein.
C'est un enjeu géopolitique, c'est un enjeu géoclimatique. On a un dérèglement climatique qui fait que les ingrédients augmentent. Je vous parlais de Grasse. On fait encore des choses à Grasse. J'en viens. J'y passe une partie du mois de juillet et du mois d'août. Je repartirai demain. On a des, malheureusement, avec le changement climatique, on a des baisses de production, notamment sur les pétales de rose à Grasse. Donc ça coûte un peu plus cher, même parfois beaucoup plus cher. Il y a une crise sur le patchouli, l'essence de patchouli, qui a pris facilement 150% depuis deux ans, quasi en deux ans. Alors ça ne justifie pas tout. On paye aussi la création. Ça serait quand même étonnant de résumer le coût d'un objet à ce qu'il coûte intrinsèquement. Mmh. La création d'un parfum, c'est, je vais donner des fourchettes, hein, ça peut plus ou moins, c'est à peu près 18 mois de travail. Ces 18 mois, ils se répartissent sur tellement de gens, il y a tellement de process. Je ne dis pas que toutes les hausses de prix sont justifiées, je ne veux pas être dans cette idée-là, mais je ne peux pas dire que c'est juste le prix de la matière.
Bien
c'est
sûr.
Pas possible. Autour de moi, alors chez Dior, il y a 10 personnes autour de moi. Dans ma maison, on est beaucoup moins nombreux parce que c'est une maison beaucoup plus petite. les assistants parfumeurs, les laboratoires, les contrôles qualité, la création, faire, défaire, refaire. C'est des processus qui sont quand même très longs, qui sont coûteux. Il faut payer les gens. Ce sont des produits qui sont fabriqués pour la plupart en France. Il y a un coût, l'énergie a augmenté, on le voit tous dans nos factures. Donc effectivement, le prix a augmenté, mais il y a vraiment un savoir-faire qu'il faut absolument se battre pour. Et ensuite, j'ai envie de dire, les parfums qui sont trop coûteux, où le prix n'est pas justifié, il faut que les marques qui proposent ça se posent aussi, et je serai l'avocat toujours de ça, se pose aussi la question de est-ce que j'en ai pour mon argent ? Et moi, quand je compose un parfum, je me dis toujours est-ce que j'en ai à la fin pour mon argent ? C'est très important de jamais oublier cette question-là.
Francis Curgeon, en réponse parfois à ces prix, du moins c'est une des justifications, il y a un marché parallèle qui explose, celui des dupes pour duplicate, donc traduisez des copies, pas des contrefaçons. J'insiste là-dessus, et ça cartonne sur TikTok.
Margot, si tu veux sentir le baccarat, la femme riche et puissante que tu penses être et t'as pas le budget, reste avec moi, c'est ce qu'il te faut. Celui-là de chez Latafa, c'est le dupe parfait du baccarat.
J'ai quasiment terminé ce parfum que j'adore et apparemment il y aurait le dupe à Zara, donc j'y vais tout de suite pour voir si c'est vrai, j'ai pas envie de le repayer une fortune. Alors c'est un parfum mix, donc vous cherchez le parfum qui s'appelle Red ou Red Tentation.
Top 10 alternatives to Baccarat Rouge. If you want to save some money, if you want to smell really, really good, check these 10 fragrances out.
Les filles qui aiment le parfum Baccarat Rouge, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous dépensez encore autant d'argent dans un parfum alors qu'il y a un dupe incroyable chez Zara ?
Baccarat Rouge, c'est l'un des parfums les plus copiés au monde. Comment on réagit, Francis Curgeon, quand on voit sa création, copiée mais pas égalée, par dizaines ? C'est quoi votre réaction à ces audios-là ?
Alors, sur le moment, on est content parce que ça veut dire que si on est copié, ça veut dire qu'on marque l'industrie, on marque le métier. Ça m'était déjà arrivé avant, sur le mal notamment, et sur quelques propositions que j'ai pu faire. Ce qui se passe, c'est que copie, dupe, tout ce petit monde-là, déjà, ça vole quand même. Je parle pas des ventes et de m'enrichir, et c'est pas le problème, en fait. C'est qu'à un moment donné, ça va appauvrir la création. Et le parfum n'est pas protégé, c'est-à-dire que depuis à peu près 20 minutes qu'on parle sur la création de parfum, le parfum n'est pas protégé, la formule n'est pas protégeable aujourd'hui encore. Donc là, depuis quelques mois maintenant, avec mon associé qui est cofondateur de la maison, on attaque, donc on a attaqué certaines maisons, certaines sociétés, on les attaque en justice pour... soit de la concurrence déloyale, soit de la contrefaçon, il y a plein de dispositifs dans la loi qui permettraient d'attaquer. Alors bien sûr, le parfum n'est pas encore protégé, mais je pense qu'à un moment donné, on va y arriver. À un moment donné, de toute façon, je suis droit dans mes bottes par rapport à ça. Je sais que parce qu'à chaque fois qu'il y a une soi-disant très bonne copie qui se passe, je vais le sentir. Ça m'intéresse de savoir jusqu'où on peut aller. Il y a des choses qui sont plutôt décentes, mais on a de la chance. C'est pas fondamentalement copiable à l'identique. La diffusion, on peut mentir, c'est un peu comme on va se mentir quelques minutes, vous voyez ? Voilà, ça fait le job pendant 5-10 minutes, un quart d'heure, et puis au bout d'un moment, de 20 minutes, une demi-heure, trois quarts d'heure, en fait le parfum s'écrase parce qu'il n'y a pas le fond, il n'y a pas la richesse des ingrédients, et c'est pas exactement la même chose. Et donc, ce qui est vraiment bon n'est jamais vraiment copiable.
Alors, Marcel Proust écrivait que les odeurs faisaient sauter les cloisons de la mémoire, que l'odeur soit douce ou mauvaise d'ailleurs. On va en parler dans quelques instants avec Caroline Champion qui va nous rejoindre. Elle a signé une enquête formidable dans la revue biannuelle Né sur les parfums clivants, les parfums qui dérangent ceux qui sentent le vrai, le sale, le corps et qui trouvent pourtant leur public. Mais avant une autre expérience immersive, le dernier single d'Other Lives, c'est Mystique sur France Inter.
Outside of the limits of life.
Ceux qui nous rejoignent à la table du Mac de l'été, je suis toujours avec le parfumeur, le compositeur de parfums Francis Kurkdjian à la tête de la création parfum chez Dior et de sa propre maison. Nous avons été rejoints par Caroline Champion. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Vous vous définissez, je cite, comme une exploratrice de saveurs, vous êtes consultante et vous avez notamment contribué à la revue Né, dont le dernier numéro est sorti cet été. Il est question du bon et du mauvais dans le champ olfactif et vous y publiez une géniale enquête sur les parfums qui dérangent. Alors, dans l'histoire du parfum, il y a toujours eu des fragrances qui ont fait débat et dans votre article, vous parlez de parfums dits polarisants, je cite, au conceptuel. En d'autres termes, je vous cite des parfums qui puent pour les néophytes. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples ?
Des exemples de parfums qui
puent ?
Oui,
exactement.
Alors, c'est un vaste sujet. J'avoue que j'ai découvert un continent entier en m'intéressant à la parfumerie de niche. J'ignorais totalement qu'il existait des parfums qui puent volontairement. Il ne s'agit pas de dire « ah, j'aime ou j'aime pas ce parfum ». C'est des parfums qui vont aller sur des fragrances qui sont a priori pas dans le champ de la parfumerie. Par exemple, Sécrétion magnifique d'État libre d'orange qui est censé sentir à la fois le sperme, le sang, la salive.
Je lis un commentaire que vous citez sur le site Fragrantia. Il sent la moule pas très fraîche, le teckel mouillé, le thon rouge bien avancé, le lait ranci, le sperme, le sang frais répandu sur le sol, l'algue putride, la pisse, la sueur.
Oui, mais la suite du commentaire, c'est « Perso, j'adore ce parfum !» C'est ça qui m'avait un peu fait écarquiller les yeux. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un groupe de personnes qui courent après ces parfums qui semblent vouer un culte aux odeurs corporelles.
Il y en a un autre qui s'inspire d'une scène effrayante d'Hannibal Lecter. Enfin, il y a énormément de versions. Enfin, c'est assez dingue. Votre article le raconte très bien. Qu'est-ce qui peut bien attirer ce public vers ces odeurs-là, ces parfums-là?
Alors, c'est difficile de répondre en 15 secondes, mais finalement, je me suis rendu compte en creusant le sujet que l'étymologie commune entre puer et pourrir n'était pas anecdotique. De même qu'il y a une étymologie commune entre la putain et celle qui pue. La putain, c'est celle qui pue. Donc il y a pourrir, puer et avoir des mœurs douteuses. Tout ça, c'est lié. Et de même qu'on a aujourd'hui une sorte de vogue pour les fromages surmaturés, les comptés 60 mois ou les viandes affinées 300 ou 400 jours, on a aussi des gens qui vont aller explorer les limites ou les extrêmes.
Justement, les limites ou les extrêmes. Francis Kurkdjian, il y a un mélange parfois dans la parfumerie de dégoût, de fascination. L'imaginaire du parfum, il tourne énormément autour de la sensualité, voire du sexe, de la sexualité. Vous la situez où, la frontière entre le malaise et la fascination quand vous créez un parfum ?
Je ne me pose pas ces questions-là.
Le bon ou le mauvais ?
Je ne me pose pas ces questions-là, entre le bon et le mauvais. Je suis désolé. Non, je ne peux pas répondre.
Pas de problème, ne répondez pas. Vous avez apporté, Francis Kurkdjian, un morceau d'ambre gris. Est-ce que vous pouvez vous nous l'avez sorti ?
Oui. Bah oui, c'est l'été. Donc c'est l'ambre gris, on le trouve sur les plages. Donc je me suis dit, quand vous m'avez demandé de penser à l'été, je me suis dit, je vais apporter un bloc d'ambre gris qui va rentrer dans l'une de mes prochaines compositions. Mais je me suis dit qu'il y avait un petit bout qui reste au laboratoire parce que c'est quand même une pièce d'attraction.
Caroline Champion, voulait le sentir ?
Avec plaisir.
Alors, je vous laisse essayer de nous le décrire au micro.
C'est compliqué à décrire. Moi, j'ai toujours du...
Alors, c'est extrêmement complexe à décrire. Parce que s'il y a une odeur complexe, celle-là en fait partie. Il y a quelque chose de très animal qui rappellerait un petit peu la bouse de vache. Mmh. Il y a aussi une odeur de tabac. Je sens quelque chose d'un peu fumé. Mais c'est surtout extrêmement animal. Et c'est typiquement le genre de... Alors là, pour le coup, c'est pas le parfum, c'est la matière première du parfum que j'ai aussi creusé un peu pour ce papier sur les parfums qui puent. Se rendre compte que le puant est un ingrédient indispensable du sang bon.
Oui, évidemment.
Oui, vous composez, Francis Curgeon, avec des matières qui seules ne sentent pas
alors,
bon.
Alors, c'est pas tant moi qui compose, mais la nature déjà compose. Enfin, parce que pour moi, la nature, c'est le plus grand parfum. C'est la plus grande. C'est une femme. C'est la plus grande parfumeur du monde. Et, là, et quand vous prenez l'odeur d'une fleur, quand vous la décomposez, enfin, non pas une fleur qui se décompose, hein, mais quand vous analysez l'odeur d'une fleur, il y a une partie très jolie, très verte et très pimpante. Enfin, très jolie, très pimpante. Et une autre partie, un peu à la limite d'une toxique, d'une narcotique. Alors, la saison du muguet est passée, mais si on prend le muguet, par exemple, c'est très simple. Le muguet, d'un côté, il y a du vert gazon. Et de l'autre côté, ça sent un peu la dent creuse ou le chien mouillé, par exemple. Si on prend le jasmin, d'un côté, il y a une note très jolie qui sent un peu la banane et la fraise, et de l'autre côté, vous allez avoir l'odeur du crottin de cheval. Et chaque fleur, et dans la nature, c'est assez singulier, il y a le yin et le yang, il y a l'odeur qui du joli, même le gazon coupé, il y a l'odeur très très verte qui évoque l'odeur de gazon, mais en même temps, il y a l'odeur un peu mielée, sale de la terre qui va être sous-jacente.
Caroline Champion, vous parlez dans votre article de nostalgie du corps chez ses consommateurs, d'une recherche d'incarnation. Est-ce que vous pensez que ces créateurs-là qui vont créer ces parfums clivants, ces parfums polarisants, cherchent quelque chose de plus primitif que peut-être la parfumerie moderne a complètement aseptisé ?
Alors, dans le discours, oui, c'est l'équivalent du Kiri versus le Comté 60 mois. mais dans la réalité des faits, là où j'étais assez surprise aussi, c'est que quand vous allez sentir ces parfums, malgré tout le discours, ils n'ont rien de dégoûtant et on peut pas vraiment dire qu'ils puent. Et je rejoins Francis sur le fait qu'on peut pas dire qu'il y a des bonnes ou des mauvaises odeurs. En réalité, tout est une question de dosage. Ce qui est intéressant avec toutes ces problématiques, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas une différence de nature entre le bon et le mauvais, il y a une différence de degré. Comme il n'y a pas une différence de nature entre le pourri et le fermenté, il y a une différence de degré.
Justement, vous travaillez sur le pourri, c'est ça, ou le moisi ? Je confonds les deux.
Je travaille sur le pourri.
Le pourri, comment vous pouvez... est-ce que vous arrivez à définir ce que ça sent, le pourri ? Et pourquoi ça vous fascine, d'ailleurs ?
Alors, ça me fascine parce que j'ai commencé à explorer le champ esthétique du goût par la relation entre le goût et l'art contemporain. Et que pour aller plus loin, je trouve qu'avec le dégoût, on peut faire une sorte de carte, on dessine les territoires du goût en creux. Poser la question du dégoût, c'est déjà poser la question du goût d'une autre manière. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'avec le pourri, il y a une problématique de temporalité. C'est une question, puisque j'ai dit que c'était pas une différence de nature, mais de degré, il y a quelque chose, il y a un processus. Et en fait, c'est l'essence même du goût qu'être un processus. Donc, le dégoût permet simplement de mettre en valeur ce processus qui est dans le goût.
Pour finir, sortez vos mouchoirs. Cette émission d'ailleurs touche à sa fin, mais pour finir, j'aimerais vous faire entendre un son. Ceci est une boîte à meux, Francis Curgeon, que vous avez créé avec votre maison. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce que elle sent très bon, évidemment. On sent l'herbe.
Mais c'est pas que l'herbe, ça sent les prés un peu, parce que c'est pas
ça.
Que vert.
Je vous fais sentir, Caroline Curgeon.
C'est pas que vert, ça sent la reine des prés.
Et pourquoi cet objet alors?
Pourquoi cet objet? Ça fait des années que la maison a 16 ans, mais ça faisait des années que j'en rêvais de cette boîte à meux parfumée. Parce que, en fait, pour moi, je pars du principe que tout ce qui se parfume, tout ce qui est parfumable, je dois le parfumer, quelque part. Donc, j'ai fait de la lessive au début de la maison, j'ai fait des bulles de savon parfumées. Et la boîte à meux, je trouvais que j'avais envie de... Là, particulièrement en ce moment, un petit geste comme ça, c'est tellement sympathique.
Elle est dorée et elle ressemble à une boîte à meux traditionnelle.
C'est un motif, oui, parce que c'est le motif d'une Montbéliarde quand même. Il y a beaucoup de travail derrière et le marquage à chaud or reprend un peu les poils
de
la vache.
Oui, ça se voit, au toucher.
Exactement.
Merci beaucoup. L'émission touche à sa fin. Donc, les vacances, c'est bien, mais avec le bon livre, la bonne série, le bon podcast, c'est encore mieux. Alors, on met quoi dans notre valise? C'est le kit de survie culturelle. Francis Curgeon, un échantillon de parfums emporté dans sa valise pour des vacances à la plage.
oh, je sais pas, un échantillon de parfum pour mettre des wagons. Je sais pas, moi j'emmène toujours du petit papier d'Arménie parce que j'aime bien que dans où je vais que ça sente un peu bon et que c'est facile et que ça fait pas de flamme et c'est parfait.
Caroline Champion, un roman sur les odeurs qui vous a captivé?
Alors c'est pas exactement un roman, mais je suis en train de lire un livre de Dominique Rock qui s'appelle Cueilleur d'essence. Dominique Rock, il était sourceur pour les parfumeurs, donc c'est quelqu'un qui a passé sa vie à explorer le monde des odeurs. Et ce livre est passionnant.
Les différentes recommandations du kit sont à retrouver sur le site et l'appli Radio France, évidemment. Merci. Merci à tous les deux, Francis Curgeon. Pour prolonger la rencontre, on prend rendez-vous au Palais de Tokyo à partir du 29 octobre pour l'exposition Parfum, culture de l'invisible qui vous est consacrée. Caroline Champion, votre enquête est à retrouver dans la revue Née sur le bien et le mal, sortie l'été dernier, en juin d'ailleurs, on est en plein été, donc en juin dernier. Le prochain numéro sortira en novembre. Joyeux et odorant mois d'août à tous les deux. C'était le Mac de l'été avec Louise Tempero, Tara Natouri et Ibrahim Damani à la préparation de cette émission. Étienne Bertin à la réalisation, assisté d'Amazir Amaïdine Guest et d'Étienne Kenel, et à la technique Loïs Moreau.